dit Pierre-Marie Romani. Coiffé d'un invraisemblable bonnet pointu, épaulait son fusil d'un air farouche comme s'il mettait en joue le lecteur. Sur des photos plus petites découpées dans les pages intérieures, il apparaissait dans d'autres mises en scène grotesques, faisant mine de se cacher derrière des rochers, comme pour échapper à la traque des voltigeurs, s'abreuvant à l'eau d'une source ou contemplant gravement la mer depuis un promontoire en tenant, Dieu seul sait pourquoi, un agneau bêlant dans ses bras. Le reste de la décoration, vue nocturne de la skyline de Dubaï, voiture de sport miniature et collection de sabres japonais d'origine douteuse, semblait également avoir été choisi par un adolescent attardé, débordant de testostérone plutôt que par un jeune homme de 23 ans. Mais Alexandre n'avait jamais été à la hauteur de ses rêves, fût-il tout droit issu d'un roman de gare minable. Pourtant, malgré mes efforts, malgré sans doute ceux de toute sa famille maternelle, il n'y renonça jamais. Au fond, je crois qu'il nous méprisait. C'est d'ailleurs bien normal. Nous ne possédions rien, nous avions toujours travaillé honnêtement, loin des bordels et des tripots, nous nous étions montrés assidus à l'école, dès que l'occasion nous en fut donnée, nous avions vénéré la culture et les études, parce que rien ne nous importait davantage que de nous sortir de la merde. Et nous nous en étions sortis, nous avions laissé derrière nous notre passé de cutéreux illettrés, et mené sous le sceau de l'abnégation des carrières honorables, dans l'éducation nationale pour la plupart d'entre nous. Ce qui, aux yeux d'Alexandre, ne faisait que confirmer notre statut de cave, ayant lamentablement raté leur vie. Voir ses propres grands-parents maternels se comporter comme des laquais en présence de son père ne pouvait certes pas l'aider à réformer son jugement. Mais l'eût-il réformé au point de désirer suivre notre exemple sur les sentiers du travail et du mérite, que cela n'aurait pas changé grand-chose. Dès l'école primaire, Alexandre rencontra des difficultés inquiétantes que Catalina, dans l'aveuglement de son amour de mère, attribuait à un excès de sensibilité, un caractère rêveur, voire à une forme peu orthodoxe de génie, alors que leur cause réelle n'était que trop claire, pour peu qu'on examinât objectivement la situation. Le gosse était complètement con. Si j'en avais jamais douté, j'en aurais reçu une confirmation éclatante quelques années plus tard, quand je ne pus éviter de l'accueillir en cours pendant son année de terminale, année qu'il mit à profit pour braquer une épicerie et se faire immédiatement arrêter, ce qui lui valut la satisfaction de passer son bac en portant un bracelet électronique à la cheville. Alexandre était donc, au sens le plus littéral du terme, un bon à rien. Il était impossible de l'ignorer comme d'y faire quoi que ce soit. Le seul remède pour éviter ce désastre génétique aurait été que Catalina préserve son fils de l'existence en s'abstenant de coucher avec Philippe. Ce qu'elle ne fit évidemment pas. Et c'est encore un des jumeaux Benetti, si ma mémoire douloureuse ne me trompe pas, qui vint m'annoncer la nouvelle de votre probable accouplement, après vous avoir surpris en train de vous embrasser à pleine bouche à la terrasse d'un bar de la Citadelle. Ce que je me refusais à croire. D'abord parce que c'était horrible. Et ensuite parce que Philippe n'embrassait pas ses conquêtes en public, si même il les embrassait jamais, ce dont je doutais sérieusement, non sans raison d'ailleurs, car après des années d'observation privilégiée de son comportement avec les filles, incroyablement nombreuses, qui acceptaient de coucher avec lui, j'en étais arrivé à la conclusion triste mais irréfutable, qu'elle ne valait pas davantage à ses yeux que des pièces de boucherie étrangement douées de paroles, dont seul l'intéressait les bas morceaux, et avec lesquels il aurait été inepte de nouer des liens excédant le cadre vorace de la consommation. Bref, Philippe traitait la gente féminine avec la délicatesse et l'élégance d'un verra en rut, mais je pensais qu'il aurait tout de même la décence de ne pas jeter son dévolu sur toi, qu'il connaissait depuis toujours, malgré la comédie inlassablement répétée durant des années sous le nez de tes parents à la porte de ta salle de bain, dont je croyais naïvement qu'elle n'était qu'un jeu de mauvais goût. J'étais surtout loin d'imaginer que tu répondrais à ses avances répugnantes avec si peu de sagacité, et qu'au lieu d'écouter mes mises en garde fraternelles, tu m'enverrais paître en me conseillant, je cite, « de m'occuper de mon cul ». Comme si la vulgarité de Philippe t'avait infecté au moment même où ta suave salive se mêlait à sa bave de gorée à la terrasse d'un bar de la Citadelle, au prétexte que je n'étais ni ton frère, ni ton père, ce qui, précisas-tu, n'aurait rien changé dans la mesure où tu n'entendais pas que qui